Merci à nos intervenants. Je vais inviter la prochaine table ronde à s'installer. Et on accueille tout de suite la troisième table ronde autour de musicalité des jeux et jeux musicaux, avec donc Antoine Morisset, compositeur et ludomusicologue, Luma, qui est journaliste pour Gamekult, et Katsu, qui est collectionneur et passionné de jeux de danse. Et je vous laisse la parole tout de suite.
Merci. Donc là, on va aborder en fait donc tout ce qui est musicalité, et surtout en fait jeux musicaux et jeux de rythme, qui est vraiment un type de jeu particulier, parce qu'en fait la musique va devenir la base du gameplay. Et en fait, c'est un style qui est quand même s'il y a eu des bribes en fait de naissance du style en Occident, c'est quand même un style vraiment japonais globalement. Enfin, ça a explosé au Japon. Et est-ce que justement, vous pouvez nous faire un petit historique, nous expliquer pourquoi ça a explosé là-bas et pour quelles raisons?
Alors moi qui suis passionné depuis un certain nombre d'années de jeux musicaux, effectivement il y a une grosse base japonaise. Alors pourquoi? Souvent on attribue la paternité du genre à un titre PlayStation qui s'appelle Parappa the Rapper, qui a été très connu pour son esthétique et pour sa bande-son qui était assez incroyable. Par contre, en termes de gameplay, c'était pas extraordinaire, on va pas se mentir. Et le genre s'est vraiment popularisé dans les salles d'arcade au Japon, avec en premier lieu la série Beatmania, puis par la suite la série Dance Dance Revolution, qui pour le coup, elle, a bien plus percé en dehors du Japon. Et je pense que cette accroche avec le Japon, en fait, c'est tout simplement leur rapport culturel avec l'arcade. Parce que finalement, chez nous, l'arcade, alors on parle là, Beatmania c'est 97-98 et DDR c'est 99. On était vraiment sur le déclin des salles d'arcade en Europe et particulièrement en France, qui d'autant plus avaient assez mauvaise réputation. On disait souvent que c'était des lieux un peu mal famés et on consommait l'arcade plutôt dans les cafés que dans des salles spécifiques. Et donc je pense que là-bas il y avait un ancrage qui était beaucoup plus fort, parce que au final c'était assez populaire et communément accepté. Et donc qui dit salle d'arcade dit machine dédiée. Et je pense que la popularité du genre aussi, elle a aussi décollé quand on a commencé à avoir des contrôleurs spécifiques, que ce soit une platine de DJ, un piano ou un tapis de danse. Et je pense que ça vient de là.
Et justement, est-ce que c'était... Enfin, quand ça a pris en Europe, justement, est-ce que ça a pris justement par ces contrôleurs-là, parce qu'il y avait un côté très ludique et que du coup les gens redécouvraient un peu le jeu vidéo de notre manière? Ou c'est vraiment, il y a eu juste un appétit pour les types de musique qui étaient dans ces jeux-là?
Alors, si on parle de musique, tout à l'heure, on parlait dans les précédentes tables rondes de musique par des puces sonores. En fait, si on prend Parappa the Rapper comme origine du genre, c'est aussi parce que c'est l'avènement de la musique sur CD et où on a pu commencer à avoir des vraies bandes son. Non pas que la musique des jeux rétro n'était pas de la vraie musique, mais en tout cas qui avait cette popularité avec le public, et surtout qui a permis d'intégrer des chansons connues et des airs qui fonctionnaient. Et donc, je voudrais rebondir
sur le fait que justement, est-ce que ces airs-là justement ont amené le genre à arriver justement en Occident, et c'est plus facilement implanté en fait grâce à ça?
Alors chez nous, c'est effectivement aussi un point culturel, parce que si on reprend les jeux type Dance Dance Revolution, c'est arrivé en Europe autour de 2001, donc pas très longtemps après le Japon, mais finalement il n'y a pas eu cette popularité-là. Nous, c'est arrivé beaucoup plus tard, avec notamment tout ce qui était les séries Guitar Hero, les séries Rock Band, etc. Et où là, la tâche culturelle avec la musique était vachement plus forte, et où... je pense c'était aussi pas loin de la période Wii, où les gens ont commencé à utiliser des périphériques, à se décomplexer un petit peu du rapport aux jeux vidéo, et peut-être aussi le côté un peu ridicule qui était un peu moqué de ces jeux-là. Je pense que ça a débloqué un peu pas mal de choses.
Je pense que là, Morgane met le point, je pense, sur ce qui est très intéressant dans les jeux de rythme, et ça s'est vu dès Parappa the Rapper, c'est que Parappa, en termes de gameplay pur, c'était un Simon où on nous demandait de faire croix, croix, rond, carré, et c'est un jeu qui était très populaire, qui existe depuis bien longtemps, même, bien avant Parappa the Rapper, où on doit reproduire le motif qui est sur notre jeu, qui fait rouge, bleu, rouge, bleu, et c'est quelque chose d'extrêmement instinctif, et je pense que c'est ça qui différencie, ou en tout cas qui fait l'une des spécificités du jeu de rythme, c'est l'aspect extrêmement instinctif et accessible du coup à un très très large public, au-delà de simplement parce que part de jeux vidéo, Kayane a cité énormément de titres dès le début de cette conférence et on en a cité plein d'autres. Il y a un côté parler, en plus, non, on vient de voir toute une table ronde extrêmement technique sur l'intégration de la musique. Il y a un côté très, le jeu vidéo s'adresse au public pour le jeu vidéo, alors que là, le jeu de rythme, lui, il a fait l'inverse, justement, en allant chercher cette culture de sortir de chez soi pour aller jouer dans les cafés, dans les salles d'arcade, il a fait l'inverse, il est allé chercher un autre public en fait.
Et justement, enfin, vous, chacun, quel rapport vous avez avec le jeu musical, enfin, qu'est-ce qui vous a attiré dans le jeu de rythme, dans le jeu musical, et qu'est-ce que vous y trouvez en termes de plaisir de jeu et d'intérêt?
Alors, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est le côté humain. Et justement, le fait d'aller en salle d'arcade, moi, ça a été ma première vraie expérience d'aller en salle spécifiquement pour jouer. Et Kayane avait mentionné tout à l'heure les associations qui faisaient la promotion des jeux musicaux, on va dire sur le début des années 2000. Et effectivement, moi, c'est ce public-là qui m'a amené vers le jeu. Et si le gameplay me paraissait un petit peu surprenant au départ, je suis resté pour cette communauté et un peu ces moments de partage. C'était vraiment ce côté humain qui était important.
Moi, de mon côté, alors je suis pas spécialiste des jeux de rythme comme toi, tu l'es, je suis très attachée à la musique pour les raisons qu'on a évoquées avant, de côté nostalgie, des émotions que ça nous fait ressentir dans les jeux d'aventure, dans les RPG et ce genre de choses. Et les séquences, quand on intègre une séquence d'un jeu de rythme dans un autre genre, il y a cet aspect un peu régressif d'aller chercher un gameplay qui du coup fait que la séquence est un petit peu mémorable dans le jeu. Enfin, je me tourne vers Antoine, on va citer Zelda à un moment et les séquences de musique dans Zelda sont très importantes et ça devient un gimmick de gameplay qui fait qu'on s'y rattache et il y a cet aspect un peu bonbon ce petit truc là, ce petit gimmick qui nous rassure et que moi du coup je suis assez attachée.
Okay. Il y a pas mal de choses aussi qui font écho dans, justement, quand tu disais qu'on a des séquences de jeux musicaux dans des jeux qui ne sont pas faits pour des jeux musicaux, ça va tout de suite interpeller le joueur sur l'impact que la musique a dans le jeu. Je pense aux niveaux musicaux de Rayman Legends, par exemple, où Christopher Hall s'était amusé à réarranger. Alors, j'ai plus les titres des morceaux en tête là exactement.
Mais, j'ai plus non plus, mais il y a Black Betty.
Il y a Black Betty.
Celui-là est incroyable.
Born to Be Wild, je confonds, c'était dans Ramène les lapins crétins, mais pareil, ça fait partie un petit peu aussi de la même dynamique. C'est un peu ce côté de. C'est des niveaux qui vont marquer les joueurs. Parce que, au-delà du côté musical et ancré dans la réalité de c'est un morceau que je connais, donc du coup, je vais m'identifier plus rapidement. Vu que la séance de gameplay n'est pas prévue de base pour être intégrée dans un jeu comme ça, tout de suite, le joueur il va beaucoup plus s'attacher, il va beaucoup plus se dire c'est ce niveau-là qui m'a marqué parce que tout était différent du reste. Et c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure, les séquences musicales dans Zelda, c'est aussi particulièrement pour ça, c'est que la musique est tellement bien intégrée dans le jeu, en dehors du jeu lui-même, que du coup, tout de suite, ça marque les esprits, ça marque les joueurs.
Et justement, en fait, la musique est plus vécue de la même manière, c'est-à-dire que là, on est dans une musique qui est dans une logique de gameplay, c'est-à-dire qu'on va devoir interagir avec elle directement. Et est-ce que pour vous, en fait, ça change le rapport qu'on a avec la musique dans le jeu vidéo, où elle devient plus une illustration, mais elle devient vraiment une source de gameplay, d'interaction?
Du coup, oui. Pour un exemple comme Zelda, vraiment, c'est là où c'est flagrant. C'est que justement, je vais prendre Ocarina of Time parce que c'est l'exemple le plus parlant, et puis c'est celui qui parle le plus de gens aussi. Toutes les séances d'Ocarina, c'est pas juste une dynamique de gameplay qu'on va retrouver, par exemple, dans un Guitar Hero, où on va jouer des notes de manière totalement random et reproduire un schéma. Il y a quelque chose de très musical, et Koji Kondo a fait vraiment un énorme travail de composition dessus. Il y a une logique, on ne se souvient pas du symbole de la berceuse Zelda juste parce que ça fait gauche-droite, mais parce que ça a une musicalité, on se souvient du thème musical avant tout, de se souvenir de la séquence de jeu. Et c'est aussi cette association-là entre la musique et les séquences de gameplay qui font que c'est aussi mémorable et que ça va autant s'intégrer dans l'univers du jeu, parce qu'en plus, toutes les musiques de l'Ocarina sont extrêmement intégrées narrativement dans le jeu. Mais derrière aussi, ça va marquer les esprits des joueurs à base de cette séquence de jeu-là, elle fait partie intégrante de l'histoire, mais en même temps, c'est pas que ça, et du coup, ça marque.
ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeux, des licences dans lesquelles la musique devient le personnage principal, finalement. On se rappelle de Parapaz the Rapper aussi parce que il y avait cette mascotte là, ce petit bonhomme avec son bonnet sur la tête. C'était un moment où Sony s'implantait avec sa première PlayStation. Ils avaient besoin en fait de marquer un petit peu leur identité face. Voilà, il y avait Nintendo qui était là depuis très longtemps. Il y avait Sega. Ils avaient besoin de s'implanter et de marquer les esprits. Et donc en passant par cette mascotte qui était un schéma habituel hein, entre Mario, entre Sonic. Il y avait du coup ce petit Parapaz the Rapper qui était extrêmement, extrêmement plus dans l'air du temps, je pense, fin des années 90, que ne pouvaient être des mascottes plus vieilles. Et il y avait cette idée de lier visuellement une mascotte à du coup la musique qui devient via la mascotte le personnage principal. C'est un truc qui s'est retrouvé, alors je ne sais plus sur quel support c'est sorti, mais je sais qu'il y a d'autres jeux de rythme, ça s'appelle Space Channel, qui avait cette jeune femme très longiligne avec des couettes qui, pareil, voilà, incarnait le jeu. Quand on voit le personnage, on voit le genre, on sait que c'est un jeu de rythme et on sait que c'est la musique qui va être mise en avant avant toute autre chose.
Est-ce que justement, c'est quelque chose qui... tu parlais justement de ces personnages qui incarnent la musique, mais est-ce que du coup, en fait, on va se rappeler autant de ces musiques-là que dans un jeu où en fait, elles nous ont bercé pendant une aventure entière, où ça a raconté une histoire, il y a une narration, est-ce que justement la musique de jeu de rythme reste autant en fait, dans la tête ou marque autant ?
En fait, elle est... je pense qu'elle marque plus, mais pas de la même manière. Je vais prendre par exemple la cas des séries des Guitar Hero, où je pense qu'elle a vraiment... Enfin, les musiques des Guitar Hero ont marqué... une génération de joueurs, mais pas tant dans leur gameplay, on se souvient pas forcément des séquences de rythme dans le jeu, mais juste du fait que comme c'est un phénomène culturel très mondialisant, très américain dans l'idée, c'est du rock, c'est du metal, voilà, c'est des musiques qui ont bercé pas mal de gens de la génération de nos parents et donc du coup de notre génération aussi par ce biais-là. Il y a ce côté redécouverte de musique déjà, et puis ce côté on se souvient tous de Dragon Force parce que c'était Dragon 3. Enfin, dans Guitar Hero 3, pardon. D'ailleurs, ça nous a... enfin, maintenant, on peut plus apprécier la musique de Dragon Force parce que justement, c'était dans ce cadre-là et on s'en souvient d'autant plus à cause de ça. Et ouais. D'ailleurs, je pense que ça permet à pas mal de gens de découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais forcément mis le nez dedans dans un cadre différent.
Je pense que ça dépend aussi de la définition de ce qu'on met derrière le jeu musical. Si on prend le jeu musical dans sa forme la plus traditionnelle, qui est un contrôleur, une ligne, un temps et un bouton, là pour le coup effectivement la musique elle va être moins marquante. Alors que si on prend une intégration peut-être un peu plus fluide, on parlait tout à l'heure de Rayman Legend, aujourd'hui là la musique de Rayman Legend elle résonne encore pour les gens qui ont fait les niveaux musicaux, et là l'intégration et le souvenir va être un peu différent quoi.
Je pense qu'il y a de manière générale, en fait, la musique est liée au souvenir qu'on a d'un jeu, que ce soit dans un jeu musical ou dans n'importe quel genre de jeu. On ne va pas se souvenir spécifiquement d'un level design. Si on prend aujourd'hui, quand on est adulte, on a 25, 30, 35 ans, on va reprendre un jeu qu'on a fait quand on était tout petit, où on n'y a pas touché depuis 20 piges, on ne va peut-être pas forcément se souvenir du level design du niveau. Ce n'est pas ce qui va s'imprégner dans notre mémoire, alors que la musique, elle, dès la première note, c'est quelque chose qui va pouvoir popper et qui va dire « Ah oui, ça je m'en souviens, c'est très lié à cet aspect de nostalgie. » Je pense qu'on va en reparler avec la table ronde sur les concerts juste après. La musique fait partie du jeu et fait partie de la mémoire qu'on a des jeux, en fait.
Est-ce que ça, pour toi, ça peut aussi permettre d'avoir une sorte de redécouverte, c'est-à-dire qu'on va jouer à des jeux avec des musiques qu'on connaît, par exemple. Mais typiquement, Kayane, c'était dans sa vidéo CS Rhythm, donc c'est une série de jeux en fait de Square Enix qui permet de revisualiser, rejouer en fait avec un jeu de rythme à toutes les grandes musiques de la série FF. Et est-ce que ça permet, est-ce que vous imaginez que c'est une sorte de redécouverte et qu'on le comprend différemment parce qu'on a une interaction différente, c'est-à-dire qu'on va être sur de l'interaction de rythme, on va pas être sur une interaction juste d'écoute, et est-ce qu'on justement les redécouvre à cette tonne là de rythme et de la musicalité?
Ah oui, c'est totalement fait pour. Tu cites Theatrisium. J'ai un autre exemple en tête, c'est Melody of Memories. Donc c'est le jeu de rythme, mais Kingdom Hearts. Oui. Donc on est toujours chez Square, mais avec la série Kingdom Hearts, qui va sur la double tranche de nostalgie des musiques liées à Kingdom Hearts et forcément des musiques Disney, oui. Vu qu'il y a des personnages Disney dans Kingdom Hearts. Et tout le principe, c'était de retrouver le moveset, donc tous les coups de Sora, Dingo et Donald qui avait dans l'aspect RPG des jeux d'origine, mais réussir à l'intégrer sur des lignes, parce que si je me souviens, nos personnages courent sur des lignes et doivent taper des musiques, enfin oui. doivent taper des les notes ennemis, ouais. en rythme. Et ouais, on est totalement dans cet aspect lié à un gameplay propre à un genre. En le liant, en trouvant un parallélisme avec des notes de musique.
Et c'est certainement parce que du coup, comme le joueur est dans une position active du jeu en fait et de la musique, on s'en souvient d'autant plus aussi. Un exemple très très bête, mais par exemple même Wii Music, qui est malheureusement un échec, mais dont l'idée de base est quand même extrêmement louable, d'avoir ce côté de redécouvrir des musiques activement de choses que l'on a avec lesquelles on a grandi, et c'était le principe même du jeu à la base. Oui.
Et justement, est-ce que, enfin, pour vous, cette logique de redécouverte et de compréhension différente de la musique, ça peut être une sorte de vulgarisation en fait. Est-ce que justement être dans la rythmique, être dans la compréhension de comment une musique est articulée en termes de rythme, ça peut servir de vulgarisation justement et d'un accès à la musique différente?
Vulgarisation, ouais, j'aime bien l'idée, parce qu'effectivement, il y a un peu ce côté de, on va démystifier la musique qui est malgré tout encore socialement. Un espèce de truc très mystérieux, dès qu'on veut rentrer un petit peu dans la technique, dans la théorie, tout de suite ça paraît très aberrant, ça fait très mathématique, très machin. Et du coup, ce genre de jeu permet un petit peu de d'évincer tout cet aspect qui peut faire très très peur, entre guillemets, la musique, pour justement revenir à des choses très très simples qui sont juste de jouer, enfin d'essayer de jouer. Oui, musique, c'est vraiment un peu le cœur du jeu, c'est jouer de la musique, essayer de jouer de la musique sans rien y connaître, sans vraiment. Ne pas savoir lire une partition, ou que d'autres jeux peuvent pratiquement plus reprendre. Je pense à Rocksmith par exemple, où c'est beaucoup plus compliqué d'appréhender le jeu si on n'a pas un minimum de base de guitare, je pense. Là où justement d'autres jeux comme ça peuvent permettre d'avoir un petit peu plus de permettre un accès plus simplifié, on va dire, à la musique de manière générale.
Alors, tout à l'heure, on parlait de la paternité du jeu de rythme et de ses origines. Ça remonte à 96. Pour moi, en fait, ça doit remonter sûrement à La Nuit des Temps et à la première personne qui a essayé de suivre un rythme en tapant ses doigts sur une table. Parce que finalement, le principe de base d'un jeu musical, c'est ça. C'est de suivre le rythme, d'essayer de reproduire quelque chose pour pouvoir vivre la musique d'une manière un petit peu différente. Et du coup, oui, là, ça devient vraiment un élément de gameplay. Mais finalement, le joueur est aussi un élément de gameplay dans ce sens-là, en fait.
Et c'est pour ça que les premiers jeux musicaux, on va dire, de manière générale, c'est basé sur le rythme, parce que justement, on le dit depuis le début, c'est quelque chose d'instinctif et de voilà. Et après, on s'est basé sur des séquences mémorielles. Et puis, plus ça va, plus on évolue, plus les jeux vont se diversifier dans leur gameplay et dans la manière d'appréhender la musique, parce que c'est des choses qu'on a déjà acquis, on va dire, d'une certaine manière.
Non, vas-y. Non, je voulais rebondir sur ce que tu disais, où c'est quelque chose de très instinctif, ou être tapé sur une table pour essayer de suivre le rythme. Dans les jeux de rythme, donc les plus représentatifs comme DDR, dans les compétitions, va y avoir plusieurs catégories. Va y avoir la catégorie scoring, donc essayer de faire le score parfait pour être en haut du leaderboard et du coup gagner, ce qui est du coup très lié aux jeux vidéo, le fait d'établir un gros score. C'était le cas sur plein de bornes d'arcade à l'origine. Et y a le côté style, donc faire la chorégraphie du niveau, mais avec du style, en liant les mouvements, parfois en binôme. Et donc là, on se rapproche beaucoup plus de la danse finalement que du jeu vidéo. Donc il y a cette ambivalence en fait dans le jeu de rythme qui prouve que c'est pas juste un jeu vidéo en fait.
Non, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que moi qui ai suivi un peu ces évolutions-là, j'ai fait de la compétition depuis plus de 15 ans sur Dance Dance Revolution, il y avait effectivement pendant une longue période ces deux clans qui étaient le premier plutôt orienté arcade, score, et donc performance et difficulté, et la partie style. Et en fait, cette partie a complètement disparu de toutes les compétitions au moment où est arrivé Just Dance. Finalement. Et les compétitions de Just Dance sont aussi reprises, mais bon, il y avait quand même cette notion de style qui est restée assez importante, parce que malheureusement, Just Dance, c'est quand même un jeu qui, d'un point de vue technique et score, et reste un peu approximatif, que ce soit ou à la Wiimote ou avec Kinect et autres périphériques. Ça n'a jamais été un jeu à score très intense. Mais en tout cas, il y avait aussi une scène compétitive sur Just Dance, et je pense que ça a pris le relais.
C'est marrant que tu cites Just Dance. Mon anecdote préférée avec Just Dance, c'est que ça va en plus dans le sens de ce qu'on disait de jeu très familial et ouvert à un large public. Le tout dernier jeu sorti sur Wii est un Just Dance, et il est sorti en 2019. soit très très longtemps après la mort de la Wii, parce que la Wii U est sortie elle en 2012. Donc 7 ans après, on continue à avoir des Just Dance continuent à sortir tous les ans sur Wii pour continuer à faire vivre cette licence, parce qu'elle est extrêmement fédératrice, même si on s'éloigne du jeu de rythme, on est plus dans le jeu de danse. Mais voilà, il y a cet aspect avec Just Dance, moi, qui me fait bien rire.
Et du coup, c'est peut-être aussi plus le côté réception du jeu de manière générale, vu que Just Dance, au contraire d'un Dance Revolution, on est plus sur le côté technique et virtuose, que je pense que des joueurs ont dû retrouver avec des jeux comme Osu par exemple, à base de faut jouer vite et jouer bien. Là où justement le Just Dance s'inscrit peut-être plus aussi dans une démarche de party game, et vu que la Wii c'est quand même la console du party game, il y a peut-être aussi un petit peu ce côté-là de
Mais justement, est-ce que c'est, enfin, pour vous, est-ce que c'est qu'un justement ce nouveau type de gameplay, ça a permis aussi de relancer le genre en fait. Par exemple, il y a eu beaucoup de jeux de rythme sur DS, donc avec l'écran tactile, donc sur Wii avec l'interaction directement avec la Wiimote, voilà, mais qui n'est pas une manette, qui est juste vraiment un périphérique. Et est-ce que ça a relancé déjà justement, parce qu'on n'a plus forcément besoin en fait d'avoir genre une platine comme dans DJ Hero ou une guitare, mais juste en fait une interaction fine et précise pour pouvoir suivre le rythme.
Je pense que ça rejoint un peu un point qu'on était en train d'évoquer là juste avant, c'est le jeu musical en fait, comme la musique parle normalement quasiment à tout le monde ou presque, le jeu musical avait ça de spécifique qu'il est très facile d'accès. Et je pense que si on le relie souvent aux party games et aux soirées, c'est aussi parce que c'est peut-être le seul genre de jeu qui est accessible à des non-joueurs. Aujourd'hui, je peux parfaitement faire jouer, je pense, mes parents à du Dance Dance Revolution, à du Just Dance. C'est beaucoup moins le cas pour des jeux qui vont mélanger d'autres styles de jeux, vraiment purement jeux vidéo, avec de la musique.
Et puis peut-être aussi la démocratisation des noms périphériques, justement, avec le fait que parce qu'on a parlé, on n'a pas parlé d'un certain genre aussi de jeux musicaux, mais pourtant qui est hyper important dans le paysage, qui sont les jeux de karaoké finalement. Oui. Quand on pense au Singit, qui à l'époque, sur PlayStation, il fallait des périphériques supplémentaires de micro pour pouvoir reconnaître. Là où maintenant, pratiquement juste avec un téléphone, on peut facilement faire reconnaître du vocal. Donc, effectivement, je pense que l'évolution technologique aussi a pas mal participé un peu à la. Pas la démocratisation, mais à l'espèce d'abandon du périphérique inutile, qui était très période Wii, on va dire, avec les Guitar Hero et les nombreux instruments quand on voit Rock Band avec. Vraiment la complète, ça fait beaucoup quand même pour loger dans son grenier. Là où maintenant les jeux, même sur Switch, quand on peut jouer à Just Dance, on a deux Joy-Con, on peut jouer à deux personnes très facilement. L'accessibilité est beaucoup plus mise en avant maintenant par l'évolution technologique.
On pense à tous ces congas qui ont dû être abandonnés dans des placards une fois que la GameCube a disparu du paysage.
Mais c'est intéressant justement ce que vous parliez justement du côté un peu poreux en fait du jeu de rythme dans le jeu vidéo qui va arriver en fait par des phases de gameplay qui va juste s'intégrer dedans. Mais il y a maintenant en plus des jeux qui sont vraiment un mix entre les deux, notamment je pense à une série qui s'appelle Crypt of the Necrodancer, où en fait on va devoir avancer en rythme pour progresser justement et battre des ennemis. Et est-ce que vous pensez que c'est un peu le futur du jeu de rythme, que le jeu de rythme en tant que tel est un peu voué à se fondre là-dedans et à disparaître, ou vraiment qu'il y a encore une vraie frange de gens qui sont intéressés, qui peuvent le mettre en avant et continuer à y jouer?
Je pense que c'est devenu plus pas un phénomène de niche, mais il est un peu retourné dans ce côté phénomène de niche. Tout le côté hyper mondialisé du jeu de rythme par les Guitar Hero, lui, a plutôt tendance à disparaître, parce qu'on ne voit plus vraiment de jeux de ce genre, de cette envergure-là apparaître. Et donc du coup, c'est... Encore une fois, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ce côté de... Les créateurs de Necrodancer sont des gens qui ont été bercés aussi par une certaine vision de la musique, une certaine vision des jeux vidéo de manière générale, et qui ont essayé de reprendre ça, de brouiller un peu les frontières, de se dire les jeux musicaux ne sont pas réservés juste à des séquences de gameplay où on va reproduire la musique, ou au contraire, du coup, la musique est au centre du gameplay. Et justement, quand on voit Danny Baranowski, du coup, qui est le compositeur de Crypt of the Necrodancer, qui est à la base un énorme fan de Zelda et qui a fini du coup par faire la BO de Cadence of Hyrule, qui est la suite du coup qui reprend l'univers de Zelda et les musiques. Il y a un peu côté la boucle est bouclée quoi finalement.
Moi je dirais pas justement que c'est de la niche, justement avec les exemples que tu cites. Je pense que ces jeux comme ça où tout le gameplay se repose sur le fait de suivre un rythme comme dans Crypt of the Necrodancer, c'est une nouvelle sous-catégorie du jeu de rythme, mais qui va pas le remplacer, plutôt une sorte des héritiers, on va dire, des jeux de rythme comme il y avait à l'époque. Mais au contraire, le fait qu'il y ait de plus en plus de jeux comme ça qui sortent, notamment dans la sphère indépendante ou de manière générale dans tous les genres, il y a de plus en plus de jeux parce que le monde indépendant explose depuis une dizaine d'années. D'avoir des jeux comme ça qui se développent de plus en plus, ça va ouvrir forcément un public encore plus large. Quand on voit justement Metal and Singer qui est sorti là récemment, qui demande pareil de suivre, alors là du coup c'est en vue à la première personne, on est dans un FPS, le fait de devoir tirer sur des ennemis en rythme, c'est même pas le premier, il y en a un autre qui est sorti je crois l'année dernière qui s'appelait BPM, donc Bullets Per Minute. Ça va ouvrir à un plus large public. Metal and Singer a reçu, je crois, cette semaine ou la semaine dernière, un mode qui va permettre d'implanter d'autres musiques, donc d'autres genres. Et l'exemple était avec du jazz. On va tirer sur des démons en suivant du rythme de jazz. On va aller chercher d'autres joueurs, on va explorer d'autres terrains, mais ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce qui avait été fait avant, parce que c'est l'héritage en fait.
Non, c'était plus dans le côté justement où les jeux traditionnels vont plutôt être réservés à un public qui a l'habitude de jouer à ce genre-là. C'est moins popularisé, par exemple, Osu, par exemple, je ne dirais pas que c'est un public de niche, mais il y a un peu ce côté de... un peu quand même quoi. Et à la limite il y avait c'était Friday Fucking Night qui était sorti aussi en jeu de rythme comme ça pareil, qui est sorti l'année dernière ou il y a deux ans, je ne me souviens plus, et qui reprenait un petit peu vraiment les codes très classiques du jeu. Et voilà, ça parle moins aux gens comme ça a pu parler à l'époque où c'était un peu plus le côté innovateur, et justement on va plus s'orienter sur des jeux un peu hybrides maintenant, plus intéressant.
Alors c'est intéressant de parler de jeux indés aussi, parce que je pense que le mélange et l'émergence de jeux musicaux croisés avec autre chose, en fait ça suit une tendance un petit peu qu'on voit dans l'industrie en ce moment, et notamment sur la scène indé, de mélanger les genres et de dire c'est un Super Meat Boy croisé avec un tel truc. Et donc c'est très à la mode de faire un peu ces mélanges, et on parlait de Metal Hellsinger qui est un croisement avec un FPS, mais finalement je trouve que dans ces jeux là, de mon expérience de joueur de jeux musicaux, c'est typiquement un FPS sur lequel on ajoute une dimension musicale. Et c'est très rare les exemples où vraiment les deux sont fusionnés de manière assez intense pour pouvoir exister en tant qu'entité. Je pense notamment à Thumper par exemple, ou à Crypt of the Necrodancer, qui sont pour le coup des exemples très réussis. Maintenant, est-ce que ça va supplanter le jeu musical dans sa forme traditionnelle? Je pense pas, parce que vers mi-2005, quand justement la popularité de Guitar Hero a explosé, et où il faut quand même rappeler un peu le mastodonte que c'était, ça faisait beaucoup plus d'argent que des licences comme Call of Duty. Donc je veux dire, c'était quand même un phénomène culturel important. Je pense qu'aujourd'hui, si on montre une guitare de Guitar Hero et une figurine de Mario dans la rue, les gens savent à peu près reconnaître les deux de la même manière, ce qui n'aurait pas été le cas quelques années avant. Et en fait, il y a un regain encore aujourd'hui au Japon d'intérêt pour les jeux musicaux. On parlait tout à l'heure de la série Beatmania, qui a quand même le courage d'annoncer son épisode canonique numéro 30 qui sort le mois prochain. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même un historique, et il y a d'autres acteurs qui sont entrés doucement. Il y a eu Namco qui, avec la série Taiko no Tatsujin, était un petit peu à côté. Il y avait l'épisode coréen le pendant coréen de Dance Dance Revolution qui continue à sortir des versions du jeu Pump It Up, et aujourd'hui c'est Sega notamment qui prend beaucoup de place sur cette scène là avec des jeux comme My qui ont une popularité assez forte dans les salles de jeu. Donc je pense que c'est des choses qui vont, enfin moi je pense pas que ce soit le futur, cette espèce de fusion, mais ça existera toujours.
Il y a aussi une évolution qui est intéressante sur le fait que, notamment par exemple, par l'intermédiaire de Fuser, qui est un jeu où on peut mixer les morceaux, où là on est vraiment dans de la composition quasiment, plus que dans du suivi de rythme. Et c'est un genre de jeu qui est assez rare. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Parce que ça, c'est aussi prenant qu'un jeu de rythme. Mais pourquoi la composition comme ça, ou la compréhension de la musique pure, et de comment gérer des morceaux, comment les mettre ensemble, est peut-être moins accessible que le rythme pur?
Alors, j'ai peut-être pas de réponse directe à ta question. Maintenant, dans les jeux musicaux, il y a quand même deux penchants. Il y en a un où ça va être façon Guitar Hero ou Dance Dance Revolution, où on va suivre un rythme. Et il y a eu quelques jeux qui ont essayé de découper la musique en samples, et où là, du coup, l'interaction du joueur et sa qualité de gameplay va influer sur la musique. Et je pense que c'est peut-être une piste de réflexion sur ce point-là.
Ouais, ou aussi peut-être juste le côté purement ludique, parce qu'encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est hyper instinctif de reproduire un rythme, de reproduire une séquence, quelque chose, parce que, ou même le Guitar Hero, il y avait un peu aussi cette dimension de jouer à, hein, le Mimesis de Roger Kawai, il y a un peu ce côté de, bah voilà, on joue à faire semblant. Donc ça, c'est des formes qui sont ludiques extrêmement intéressantes. Là où le reste, c'est plus être, je sais pas trop comment dire, mais un peu plus le côté curiosité face à la musique. Déjà, quand on est un petit peu dans le milieu, sur le Fuser, par exemple, le genre de jeu, quand j'aurais eu ça il y a 15 ans, je pense que je m'aurais vraiment plu parce que c'était la période aussi où j'ai commencé à faire de la musique de mon côté. Donc il y avait ce côté de comprendre comment c'est foutu un sample, comment ça marche et comment je peux les faire monter avec les autres, qui sont toutes les réflexions que peuvent se poser les DJ aussi. C'est un peu... C'est peut-être moins universel, ça va intéresser des gens qui sont déjà un petit peu dans le milieu, mais peut-être pour un grand public, le vendre aussi en tant que jeu produit marketing, peut-être que ça marche un petit peu moins, c'est un peu plus réfractaire pour certaines personnes.
Je pense que ça va dans le sens de désacraliser un petit peu, de démystifier la composition pour la musique de jeux vidéo, dans le sens où maintenant on voit par exemple énormément de chaînes YouTube qui vont expliquer comment ça fonctionnait sur Game Boy, sur Super NES, parce que c'était très compliqué dans ces petites consoles d'intégrer des sons. Ça se démocratise le fait de vouloir comprendre comment fonctionne la musique dans un jeu, et du coup naturellement on glisse vers des expérimentations comme ça, parce que je pense ça reste extrêmement niche en termes de c'est pas extrêmement populaire ce genre de jeu, mais c'est dans une idée de les joueurs essayent de comprendre ce à quoi ils jouent, et ça va dans cette démarche-là.
Et justement, enfin, t'en parles très bien, c'est que ce côté vraiment de compréhension et d'intégration en fait de la musique dans le jeu vidéo, c'est pas juste en fait il y a le jeu musical, il y a le jeu de rythme, mais c'est vrai que ça se limite pas à ça. En fait, la musicalité, on peut aussi la percevoir différemment. C'est-à-dire que typiquement, et je reviens encore sur Kayane qui parlait du jeu de combat, mais en fait, dans le jeu de combat, les combos, c'est de rythme. En fait, c'est le fait de trouver le bon instrument, c'est de rythme. Et comment est-ce que cette musicalité-là, vous pensez qu'elle est accessible au grand public? Est-ce que les gens vont comprendre en fait cette notion de rythme en fait dans ces jeux qu'ils ne mettent pas en avant?
Je cherche, mais en vrai, je pense que oui, parce que je me souviens avoir vu passer, il y a de ça justement, toute la question de l'accessibilité vachement mise en avant pendant les précédentes tables rondes, et je pense qu'on est encore un petit peu là-dessus. Mais je sais qu'il y a un champion du monde de Street Fighter 4 qui est aveugle et qui se repère exclusivement au son et à la musicalité en fait des coups et des combos. Donc ouais, il y a cette espèce de dimension de la musicalité hors de la musique en elle-même, mais vraiment juste dans les jeux de combat, la manière dont vont sonner les coups et le rythme qui va avec, ça aide énormément à comprendre le jeu et à se sortir un petit peu des cadrans très visuels que peut proposer ce genre de jeu aussi.
Je pense qu'au-delà du jeu de combat, il y a énormément de joueurs qui font des séquences de rythme dans des jeux sans s'en rendre compte. Je pense à toute l'existence des boss à pattern, le fait de devoir retenir des séquences d'enchaînement de coups que va faire un boss. C'est déjà comprendre un peu la musicalité du boss quelque part, où il va tourner dans chaque coin, puis après il faut retenir qu'il va revenir au milieu de la salle. C'est le fait de le rythme d'un combat, c'est comme le rythme d'une musique. Je sais que un ami et collègue, quand je lui ai parlé de cette table ronde, m'a cité l'exemple d'un boss qui s'appelle Beauvoir dans Nier Automata, dont tous les coups sont calés par rapport à la musique, puisque c'est dans un contexte de chanteuse d'opéra, je crois, quelque chose comme ça. Toute l'existence de rythme pour battre un boss est primordiale, et on le voit d'autant mieux dans la popularité des jeux From Software, avec Dark Souls par exemple, et les autres. Battre un boss dans Dark Souls, c'est comprendre la musicalité du boss et comprendre le rythme que lui nous impose, et réussir à danser dans ce rythme en fait pour réussir déjà à lui porter un coup, c'est déjà pas mal, et reprendre le dessus en fait. Et c'est déjà techniquement faire du gameplay de jeu de rythme dans quelque chose qui n'a rien à voir avec à l'origine un Dance Dance Revolution quoi.
Et ce qui est bien aussi, c'est un peu le côté des fois quand on tourne un petit peu en arrière, mais je vais encore parler de Zelda, mais quand on voit justement des exemples comme Skyward Sword, que Stéphanie tout à l'heure, sur lequel elle avait créé un trade, ou même juste un petit peu avant The Wind Waker, où le fait que chaque coup soit musicalisé et en rapport avec la musique en background, il y a quelque chose, il y a une dimension rythmique qui prend le pas dessus et sur lequel le joueur peut au moins s'accorder de savoir où est-ce qu'il en est dans son combo, ou à quel moment il sait que l'ennemi va riposter. Il y a vraiment une dynamique de logique de gameplay en fonction de la musique. Bon, là, c'est vraiment mis en exergue parce que bah, chaque coup fait une note, mais c'est des choses qu'on a très, on s'est très, très vite rendu compte qu'on pouvait carrément enlever ce côté musical-là, et on garde quand même la même logique et la même dimension dans ce genre de jeu.
Ouais, c'est peut-être sur ce point-là où, au final, on va avoir de la musicalité sans musique. Ça rejoint un peu ce que disait Luma tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que j'ai ressenti sur pas mal de jeux, que ce soit sur des beat'em all, que ce soit sur même Doom 2016, finalement. Quand on monte un petit peu dans les niveaux de difficulté, on se rend bien compte que c'est un ballet, que c'est une chorégraphie et qu'on a un timing. Un, deux, un ennemi, on recharge, on revient. Et en fait, bah, c'est une forme de, de musicalité sans musique, quoi. Et quelque part, ça doit être, je pense, au cœur de pas mal de jeux sans même qu'on s'en rende compte.
C'est ça qu'il y a tout un travail en fait qui est souvent, enfin souvent dissimulé ou qu'on ne se rend pas compte sur l'importance en fait juste soit d'un rythme, soit de changement de phrase musicale pour signifier en fait un élément de game design. Et est-ce que justement vous avez des exemples qui vous ont marqué vous en termes de comme ça de construction musicale qui vont vous signifier un événement et qui vous ont justement aidé à justement découvrir un secret, un pattern, d'avoir un rythme justement pour battre un boss ou un autre ennemi. Ouais.
Là, comme ça, j'ai pas d'exemple extrêmement précis. J'ai par contre d'exemple d'un jeu dont toute la musique, toute la bande-son intègre parfaitement le gameplay puisqu'elle a été pensée en même temps. Et ça rejoint ce que disaient les précédents invités sur le fait que maintenant le son est intégré en début de développement. C'est le jeu Sayonara Wild Hearts dont tu as fait en plus une conférence il y a pas longtemps, qui est plus un album interactif. Qu'un jeu de rythme où en fait des séquences musicales s'intègrent dans le gameplay de telle manière à raconter l'histoire. La musique raconte l'histoire au-delà des moments où il y a des chansons avec des paroles. D'accord. C'est de gameplay et la coordination entre le gameplay et la bande-son qui vient définir le jeu dans son ensemble en fait.
C'est aussi toute une frange de justement de gestion du, enfin c'est pour le coup c'est plus une sorte de blague, c'est toute la gestion en fait du gameplay par des instruments musicaux. Et il y a tout un côté en fait où on se rend compte que ces instruments-là en fait sont très adaptés à du gameplay. Et il y a vraiment une notion de concevoir du gameplay sur justement ces rythmes-là. Et est-ce que vous imaginez vous justement est-ce que dans un avenir proche on pourrait comme ça encore plus mixer justement ces deux genres-là et avoir des jeux purement musicaux avec un vrai gameplay derrière qui soit pas juste du gameplay de rythme pur.
Merde, c'est le rythme pur du coup qui m'a parce que sinon oui j'allais dire Crypto de Grand Source c'est le parfait exemple de voilà, mais c'est quand même très basé sur le rythme. Sur des autres questions musicales, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas, il y a un peu ce côté, on va dire, on va plus jouer sur les hauteurs aussi, parce que c'est vraiment les deux aspects musicaux qui sont les plus simples, c'est la hauteur des notes et puis le rythme que ça fait. Mais je pense au très récent Trombone Champ aussi, par exemple, où justement, on va en venir après parce qu'il y a pas mal de choses à dire, mais où justement tout le principe du gameplay se base sur reproduire des hauteurs de notes. Et justement, ce qui est fun dans le jeu, c'est pas l'exactitude, là où la majorité des jeux musicaux d'ailleurs s'accordent à dire à bien reproduire une musique. Ce qui est drôle dans Trombone Champ, c'est juste que ça sonne n'importe comment et du coup c'est ça qui fait que le jeu est fun. Mais du coup on se base sur d'autres questions musicales et potentiellement, même si le jeu ressemble quand même beaucoup à un jeu de musical classique de base, ça va faire traîner des choses dans la tête des game designers qui vont peut-être sortir des choses un peu hybrides à venir. Très
bien. Et bien, il nous reste un tout petit peu de temps s'il y a des questions dans le public sur les interventions.
Oui, à propos de la perméabilité du rythme dans les autres genres de jeux, par exemple, je voudrais mentionner New Super Mario Bros., qui est un exemple un petit peu... qui semble un peu trivial, mais au moment où il y a wah wah dans la musique, il y a les ennemis qui sautent, et donc ça change le rythme, il ne faut pas les attaquer à ce moment-là. Et d'autre part, par exemple, on a vu Bayonetta reprendre un vieux jeu en pseudo 3D qui s'appelle Runner, je ne sais plus exactement, où on est une sorte de héros où les ennemis avancent vers nous, qui est un peu une inspiration des jeux de rythme. Donc je pense que les jeux de rythme vont plus ou moins pénétrer au fur et à mesure les jeux ordinaires comme ça par des moyens divers et variés. Je précise par ailleurs que Cryptid of the Necrodancer et Melody of Memory sont jouables dans le cadre du festival au premier étage de la BPI. Je le sais, j'y étais ce matin toute la matinée.
Bonjour, merci pour la discussion et merci d'avoir mentionné Trombone Chambre, qui est un jeu formidable, bien sûr. Sur un exemple un peu différent, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de rythmique dans les jeux musicaux. Un exemple, je ne pense pas qu'on l'ait mentionné, qui est Electroplankton, qui est un vieux jeu DS et qui, là, pour le coup, me semble, était un peu plus mélodique. Alors, c'est resté un exemple, une tentative un peu solitaire, mais est-ce que vous voyez dans ces jeux mélodiques peut-être d'autres possibilités? Intrinsèquement, ça reste onirique, donc c'est quand même un style de jeu très, très particulier, mais est-ce qu'on peut envisager une évolution des jeux musicaux dans ce sens?
Alors, c'est vrai que j'avais pas cette référence, donc du coup c'est compliqué de la citer quand on l'a pas. Mais c'est vrai que là, on n'a pas beaucoup parlé un peu des jeux dits expérimentaux. On a vite fait citer Sayonara Wild Heart qui s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là. Mais même plus en amont, si on pense à des jeux comme Rez ou comme Flower aussi, qui sont pas forcément des jeux musicaux à proprement parler, mais dont la musique fait partie intégrante du gameplay, dans le sens où on va générer de la bande son, on va l'agrémenter en fonction de ce que l'on fait à l'écran, mais en fait la musique a une place importante dans le gameplay sans en être centrale aussi, donc c'est pas forcément des jeux musicaux, mais ça s'inscrit un petit peu dans cette démarche de comment penser la musique dans un jeu vidéo, comment l'intégrer en dehors du narratif et en dehors de l'accompagnement pour l'intégrer dans des phases de gameplay sans que ce soit vraiment le cœur du jeu.
Ouais, puis je pense que ça c'est quelque chose qui commence à être intégré doucement. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y a beaucoup de jeux qui s'amusent, ne serait-ce que dans les menus déjà, les déplacements, à avoir un petit peu cette notion de musicalité. Là sur les titres qu'on a cités, c'est vrai qu'on a tout de suite en tête l'œuvre de Mizuguchi sur tous ces titres-là, mais ça reste souvent cantonné à des expériences et des trucs un peu artistiques, des projets un petit peu expérimentaux. Alors c'est toujours des expériences que moi je trouve intéressantes à cet égard-là. Maintenant, est-ce que ça va apporter, est-ce que ça va plus s'intégrer? Franchement, je sais pas.
C'est vrai que c'est une logique d'arcade aussi. Enfin, c'est vrai qu'on y revient, mais c'est vrai que Rez à la base c'est une logique d'arcade, et c'est vrai qu'on retrouve ce côté où, alors moins dans le partage, mais on retrouve en fait ce côté justement où on va vraiment vivre une expérience différente en fait. On va pas juste être sur un jeu de rythme, on va pas juste être face à un jeu vidéo classique, on va être dans une logique où on va devoir intégrer cette musicalité là et comprendre comment elle fonctionne surtout. Et c'est reste intéressant pour ça, c'est que, et justement Electroplankton aussi, c'est d'essayer de comprendre avec le peu d'indices qu'on a comment en fait cette musicalité fonctionne et comment nous on va pouvoir en faire un élément de gameplay, comment on va pouvoir la faire évoluer. Ouais.
Oui, puis je pense que c'est aussi, ces jeux-là représentent aussi des exemples et des leçons à tirer en termes de game design, en disant regardez, là j'ai intégré de la musique à des endroits qui n'étaient pas prévus et qui ne sont pas courants, et finalement est-ce que la musique elle doit vraiment se cantonner à une bande son et des bruitages? En fait regardez, on peut faire autre chose et on peut l'intégrer différemment, et c'est vrai que même New Super Mario Bros était un exemple intéressant à cet égard là quoi.
Et puis reste un très bon exemple, parce qu'il y a vraiment ce côté où de base il y a aussi une volonté de traduire un peu la synesthésie en fait, donc le fait de voir des couleurs dans les sons, et où c'est vraiment traduire le son en image. Et c'est une approche qui est assez rare et qui est bonne à noter justement. Ouais.
Bonjour, merci beaucoup pour l'intervention. C'est parfait sur ce qui a été dit sur la synesthésie, parce que ça anticipait une toute petite remarque sur l'évolution peut-être des jeux de rythme. Je pense qu'elle est quelque part déjà en cours sur les va-et-vient dont vous avez un petit peu parlé, avec déjà le domaine indé et puis quelque part tous les phénomènes de création artistique. Si on creuse pour des personnes comme Mizuguchi, on sait ses inspirations pour Kandinsky, on sait aussi qu'artistiquement des personnes comme Mondrian ont fini leur carrière sur l'évolution de leur visuel qui était en fait des va-et-vient presque entre des partitions musicales et autres. Alors ma question par contre elle est différente. C'était une citation d'un chercheur qui a travaillé sur le domaine des cybertextes, et il parlait dans les cybertextes du fait qu'il y avait un effort non trivial dans la lecture du cybertexte qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo. Quand on lit un texte en jeu vidéo, on n'est pas dans la même lecture évidemment qu'un roman ou autre, donc on va avoir plein de chemins et de possibles qui vont être explorables dans le jeu, qu'on ne va pas avoir dans les romans, sauf si on est sur un livre dont vous êtes le héros. Et quelque part la question que je me posais, c'est est-ce que dans les jeux de rythme et les jeux musicaux on n'est pas dans ce même genre de dynamique comme ce qu'on peut retrouver par exemple dans les jeux d'enfants enfants, où quand il y a une forme de musicalité ou de rythme, on va rajouter une chorégraphie comme ça, hein, ce qui a pu donner peut-être de manière concrète un oui musique dans les origines ou autre.
Si. Non, pour développer un peu plus, oui, il y a vraiment ce côté, on le sait intrinsèquement, le jeu vidéo, ça reste un jeu malgré tout avant tout, donc toute la dimension ludique est primaire à n'importe quelle forme d'enjoyment, j'ai pas le mot en français, mais de plaisir, on va dire, de jouer. Donc oui, effectivement, tout le côté, les jeux musicaux ne sont pas faits pour reproduire de la musique, pour faire de la musique. On est dans une autre démarche, on est dans une démarche de jeu, on est dans une démarche de passer un moment agréable. C'est pour ça aussi du coup qu'on retrouve pas mal de jeux musicaux dans les party games, c'est qu'il y a vraiment ce côté, voilà, c'est fun, c'est fait pour être joué. Et non, moi je vais pas aller plus loin, finalement elle est bien ma réflexion là comme ça.
Merci beaucoup. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions parce que sinon on va être trop en retard. Donc merci à nos intervenants. Merci.